Voilà, béni soit le Seigneur pour sa grâce, son amour, oui, que nous venons de chanter à travers de ces cantiques merveilleux qui nous parlent de ce qu'il a fait pour chacun de nous et que nous puissions encore ce soir eh bien, le réaliser encore au travers de ce message que nous allons entendre maintenant, de cette bonne nouvelle, du message de l'Évangile. C'est ce que ça signifie, l'Évangile. C'est une bonne nouvelle que Dieu veut nous annoncer. J'aimerais qu'on aille ensemble dans l'Évangile de Marc pour voir ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur a à nous dire ce soir pour nous qui sommes là, qui entendons ce message. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Ce soir, c'est justement dont la personne dont j'ai à cœur de vous parler, c'est de celui qui a ce pouvoir d'ordonner au vent de s'arrêter, à la mer de se calmer. Celui à qui obéit le vent et la mer. Ces disciples ont fait, les disciples de Jésus-Christ, une expérience vraiment qui a marqué leur vie, qui a marqué leur cœur, et qui leur a donné de réaliser vraiment, véritablement, qui était Jésus-Christ à ce moment-là, l'identité vraiment profonde de Jésus-Christ. Et ce soir, j'ai à cœur vraiment qu'on s'arrête sur ce message afin de aussi le réaliser, mais afin de l'expérimenter. Et j'aimerais que, avant d'aller plus loin, on demande encore au Seigneur sa grâce, et qu'il ait vraiment éclaire nos cœurs. J'aimerais que l'on puisse se tenir dans la prière encore un instant, s'il vous plaît, que demande au Seigneur vraiment d'agir au milieu de nous, parce que c'est ce qu'il veut faire. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander, oui, ta grâce. Nous voulons te dire merci pour ta présence, merci pour ton assistance, merci Seigneur pour ta bienveillance et Seigneur ta miséricorde à notre égard. Merci parce que tu es toujours le même, tu n'as pas changé, ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans, tu veux le faire encore aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es celui qui veut encore aujourd'hui sauver, tu es celui encore aujourd'hui qui veut restaurer, qui veut délivrer, qui veut libérer les captifs. Tu es celui qui veut ouvrir les yeux des aveugles, celui qui veut nous donner de réaliser qui tu es véritablement. Et je te prie vraiment dans ces moments d'illuminer nos cœurs, de vraiment disposer nos cœurs à reconnaître qui tu es au travers de ta parole, par l'action de ton esprit, à saisir par la foi ce que tu mets là à notre disposition, ta main tendue, ta grâce, ton secours. Vraiment, je te prie d'agir maintenant encore, Seigneur, durant ce message, afin que, Seigneur, oui, ce soir, les cœurs, Seigneur, puissent être touchés, Seigneur, et convaincus que tu, Seigneur, n'as pas changé, que, Seigneur, tu es celui qui à tout pouvoir pour ordonner au vent de s'arrêter, à la mer de se calmer, aux tempêtes qu'il peut y avoir, que tu n'as pas changé pour intervenir dans nos vies, dans les circonstances par lesquelles nous passons. Je te bénis par avance, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais, ce que tu feras. Amen. Voilà, nous voyons donc ce passage où nous voyons... Eh bien, comme je le disais, ces disciples faire une expérience, vraiment une expérience qui va, je crois, marquer leur vie, parce que je ne pense pas que cette expérience, ils vont l'oublier par la suite. Je pense que c'est vraiment une expérience qui va les interpeller profondément et qui va marquer leur ligne de conduite par la suite. Et donc, dans ce passage, ce que nous voyons, c'est une tempête à ce moment-là. Et des tempêtes, aujourd'hui encore, il en existe, de toutes sortes. Hein. Aujourd'hui encore, nous voyons malheureusement autour de nous, et il n'y a pas besoin de chercher très loin pour voir des tempêtes, pour voir malheureusement des naufrages aussi. Hein. Beaucoup de naufrages, beaucoup de couples faire naufrage, de familles être amenées à la dérive, être dissolues, brisées et ruinées. Malheureusement, le constat que nous pouvons tous faire, je crois, sans aller chercher trop loin, en regardant dans nos familles, en regardant auprès de nos proches, de nos amis, collègues de travail, c'est ce que nous voyons. C'est la réalité de ce qu'il se passe dans ce monde. Et malheureusement, parce que ce monde n'est pas à l'écoute de ce que Dieu veut, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous partions à la dérive, ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous fassions naufrage, ce que Dieu veut, ce n'est pas que, justement, nous soyons dans la souffrance, non, bien au contraire. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions, eh bien, être sauvés, et être protégés, être gardés. Et pour cela, on voit que, premièrement, il y a une importance. Dans ce passage, ce qu'il nous faut nous retenir pour chacun de nous, c'est que l'important, c'est qu'il y ait Jésus-Christ dans nos vies, qu'il y ait Jésus-Christ dans nos cœurs, qu'il y ait Jésus-Christ dans notre barque. Parce que c'est parce que Jésus-Christ était là qu'il a pu intervenir à ce moment-là. Malheureusement, aujourd'hui, c'est parce que nous voyons, eh bien, justement, que Jésus-Christ est rejeté, parce que Dieu est rejeté, qu'il y a tant de naufrages, tant de souffrances, de difficultés. Ce soir, as-tu Jésus-Christ dans ta vie? As-tu Jésus-Christ dans ton cœur? As-tu répondu à cet appel? Parce qu'il y a un appel que Dieu te lance, un appel que Dieu te fait ce soir. Il y a l'appel de Jésus-Christ pour ta vie, sur ta vie, pour t'appeler à venir à lui, t'appeler à l'accepter, à le recevoir comme étant ton sauveur, mais aussi ton Seigneur, comme étant celui qui va gouverner, qui va diriger ta vie. C'est là l'appel de Dieu. As-tu répondu à cet appel? Parce que c'est là le choix que nous avons tous, mais c'est là le meilleur des choix, celui de choisir Jésus-Christ. C'est là le meilleur des choix que nous pouvons faire dans nos vies, celui de lui obéir. C'est un choix très important, c'est le plus important, mais c'est le meilleur. Quand on le choisit, quand on choisit Jésus-Christ, je connais personne qui a regretté de choisir Jésus-Christ. Ceux qui ont véritablement expérimenté la grâce de Dieu, expérimenté son secours, ceux qui ont fait une véritable rencontre avec Jésus-Christ, j'en connais aucun qui ont regretté par la suite. Parce que il y a l'action de Dieu, il y a cette délivrance, il y a cette transformation, il y a cette bénédiction qui est là par la suite, qui est vraiment merveilleuse, qui nous accompagne. Comme le disait notre frère Antoine pour commencer ces cantiques, qu'il y a de merveilleux dans la marche avec le Seigneur, c'est qu'il nous accompagne. Il nous appelle à le suivre. Suis-moi. C'est là l'appel du Seigneur encore ce soir pour chacun de nous. Suis-moi. Il y a cet appel. As-tu répondu à l'appel de Jésus-Christ? Parce que c'était là l'appel des disciples avant de se retrouver dans cette situation. Et parce qu'ils ont fait ce bon choix, ils ont pu, malgré leurs erreurs, on va les voir, à ce moment-là, ils ont pu être malgré tout sauvés, gardés, préservés. Je me rappelle du témoignage de cette femme, cette mamie que j'ai visitée il y a peu de temps, c'était avant-hier. Et qui me témoignait de sa conversion, de comment elle a rencontré le Seigneur. Et justement, elle, ça a été par rapport à ce que je vous partage en entendant la voix du Seigneur. Mais avant cela, en fait, elle était vraiment dans une situation vraiment de souffrance dans sa vie. C'était aussi, elle était au bord du naufrage, au bord de la ruine totale. Et elle était vraiment dans la souffrance, dans son cœur, dans la difficulté, et puis sa voisine un jour l'a invitée à venir à l'église, et elle lui a dit, vous voulez venir avec moi, je vous amène, je vous prends, et sa réponse à ce moment-là, la réponse de cette dame à ce moment-là a été, oui, vous pouvez m'amener, vous pouvez me prendre et m'amener même jusqu'en enfer, vous pouvez m'amener même jusqu'au diable. Ça a été la réponse de cette dame à ce moment-là, tellement Il y avait cette souffrance, cette détresse dans son cœur. Cette dame ne réalisait pas ce qu'elle disait, n'était pas consciente de ses paroles. Et par la suite, elle me le disait, elle en était gênée, elle en a eu honte de parler comme ça. Mais c'était ce qui me marquait, c'était ce qui me montrait vraiment son désespoir total dans cette situation. Elle était prête à aller être conduite n'importe où. Mais béni soit le Seigneur, parce que c'était bien loin de l'enfer que Dieu voulait la conduire, mais à l'opposé, jusque dans le paradis, vers lui, dans sa présence. Et cette dame me témoignait justement qu'elle a pu venir aux réunions, et dès la première réunion, elle a été touchée par la grâce de Dieu, touchée par ce qu'elle a entendu, le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle, ce que je vous annonce ce soir. Et puis elle a continué de venir aux réunions, et au fur et à mesure elle écoutait et elle était travaillée dans son cœur. Et puis à un moment donné, elle est arrivée à faire cette prière, à se tourner vers Dieu de cette manière, et à demander à Dieu que Dieu lui parle, mais que Dieu lui parle d'une manière vraiment directe, parce que elle disait, ce qu'elle nous disait, elle entendait des messages en venant aux réunions. Elle entendait des hommes lui parler de Dieu, lui parler de Jésus-Christ, lui parler de ce que la Bible dit et annonce. Mais elle voulait que ce soit Dieu qui lui parle. Elle avait du mal, elle avait cette difficulté. Pour elle, c'était son problème à ce moment-là. Et parce qu'elle était sincère dans sa démarche, parce que c'était un vrai problème dans sa vie, eh bien, Dieu est intervenu. Et elle a demandé, elle a fait cette prière: Seigneur, maintenant je veux que ce soit toi qui me parles, toi qui me montres la vérité, toi qui me dises vraiment si c'est là que je dois aller. Et quand elle s'est tournée vers Dieu de cette manière, elle a entendu cette voix à ce moment-là, dans son cœur, cette voix, cette conviction, cette parole: suis-moi, suis-moi. Et à ce moment-là, elle est tombée à genoux. Elle était toute seule, il n'y avait personne, il n'y avait pas de pasteur. Elle était toute seule dans la prière. Et elle a été convaincue que c'était l'appel de Jésus, justement, à le suivre et à marcher dans ses voies. Et à ce moment-là, elle s'est effondrée en larmes, elle a pleuré, elle s'est repentie, elle a demandé à Dieu pardon pour tous ses péchés. Elle a saisi vraiment la grâce de Dieu, elle était convaincue, elle a fait cette vraiment rencontre personnelle, vivante, avec Jésus-Christ. Et c'est là ce que Dieu veut pour chacun de nous, que nous puissions vraiment faire cette expérience ce soir, le réaliser, soit au travers de ce message, que vous puissiez réaliser que c'est Dieu qui vous parle aussi. Parce que pour elle, c'était la difficulté, mais le Seigneur n'agit pas toujours comme cela, de la même manière avec chacun de nous. On passe par des chemins différents, on a des besoins différents. C'était le besoin de cette dame. Parce que quand il y a dans nos cœurs cette conviction déjà que Dieu nous a parlé, que Dieu nous a montré la vérité, comme le disait Antoine, on a déjà entendu la voix de Dieu. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, si on sait où est la vérité, si Dieu nous a déjà parlé, Dieu ne fait pas de miracles pour rien. Dieu ne fait pas de miracles superflus. Dieu ne fait pas de choses vaines. Mais par contre, il y a sa grâce, il y a son amour qui nous rappelle et qui parfois nous rappelle et insiste de nouveau pour nous appeler à revenir, à venir à lui et à répondre vraiment à cet appel. Cet appel qui est solennel, cet appel qui est sérieux, cet appel qui est important et qu'il faut vraiment saisir, auquel il nous faut répondre ce soir, vraiment. As-tu répondu à cet appel? Suis-moi. C'est à cet appel que les disciples ont répondu. Et donc c'est par la suite, c'est parce qu'ils ont répondu à cet appel qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Vous avez remarqué que cela ne leur a pas empêché de traverser une tempête. C'est particulier quand même. On pourrait penser qu'en répondant à l'appel de Dieu, en marchant dans ses voies, en lui obéissant, que cela nous empêchera de traverser les tempêtes et que cela nous épargnera les épreuves et les difficultés. Ce n'était pas le cas. Et il est important ce soir d'avoir une bonne vision, de bien comprendre justement ce à quoi Dieu nous appelle. Qu'est-ce que c'est la marche chrétienne, la véritable marche chrétienne selon ce que nous dit la Bible, selon ce que nous montre le Seigneur dans sa parole. On voit que Dieu a permis une épreuve, Dieu a permis une difficulté, Dieu a permis une tempête. Jésus-Christ a conduit, on pourrait dire, ses disciples dans une tempête, parce que Jésus-Christ savait très bien où est-ce qu'il conduisait ses disciples. Il leur a dit « passons de l'autre bord ». Il y avait cette indication. Et parce que ses disciples ont obéi, ils sont allés sur cette mer. Et puis ils se sont retrouvés dans cette tempête, on pourrait dire, du coup, à cause de Jésus, de cette parole, passons de l'autre bord. De la même manière, Dieu permet dans nos vies certaines tempêtes. Même après lui avoir obéi, même après avoir répondu à son appel, il peut y avoir certaines difficultés pour que nous puissions justement expérimenter sa grâce, pour que nous puissions expérimenter qu'il est celui qui agit encore aujourd'hui, pour que nous puissions expérimenter qu'il est tout puissant, qu'il a tout pouvoir sur les éléments, la nature, mais sur les circonstances de nos vies, sur tout ce qui nous entoure, sur tout ce qui se passe, qu'il a tout pouvoir, nous puissions vraiment l'expérimenter. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et il permet certaines situations aussi pour nous donner de mieux le connaître, de vraiment réaliser qui il est véritablement. Parce que c'est ce qui a donné aux disciples de Jésus-Christ à ce moment-là de le connaître davantage, de vraiment davantage saisir l'identité profonde de Jésus-Christ, qui il était véritablement. Ils ont pu terminer en se posant cette question, oui, mais dans le fond, après, il y a eu des réponses qui sont venues en continuant sur le chemin avec le Seigneur. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et cette question nous montre que bien celui-ci, c'est Jésus-Christ. Celui-ci, c'est Dieu. C'est un mystère. La Bible nous montre que Jésus est Dieu, que Dieu est Jésus-Christ, que Dieu s'est fait homme pour venir nous secourir dans nos tempêtes, dans nos souffrances, dans nos difficultés, et quelles qu'elles soient. Dieu s'est fait homme, et s'est abaissé et est venu jusqu'à nous pour nous appeler à venir à lui, pour nous appeler à le suivre. Et dans ce passage, on voit vraiment l'identité de Jésus-Christ. Et on voit qu'il est pleinement homme, mais pleinement Dieu à la fois. On voit, on voit qu'il est pleinement homme, même au travers de cet état, cette situation. À ce moment-là, il va dormir. Et on peut se demander, mais c'est étonnant, pourquoi Jésus dort à ce moment-là? Et c'est ce qui montre les limites que Jésus-Christ avait acceptées. Il avait accepté les limites humaines, physiques, mais en même temps, on voit qu'il a tout pouvoir, qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Gardons à nos cœurs, vous voyez, l'identité véritablement de Jésus-Christ, afin de saisir sa grâce ce soir, afin de ne pas nous laisser amener à la dérive à cause des tempêtes, à cause des difficultés, parce que c'est parfois la difficulté quand on est éprouvé, quand il y a des vents, quand il y a des tempêtes. La difficulté, c'est parfois de lâcher prise, d'abandonner, et d'abandonner la foi, d'abandonner Dieu, de se détourner. C'est parfois le piège qu'il peut y avoir dans nos vies quand il y a d'un coup des épreuves, quand on est déboussolé. Il y a certains vents auxquels il nous faut veiller. Parce que c'est vrai qu'on préfère quand le vent va dans notre direction. On préfère quand le vent souffle dans notre direction, quand il nous pousse derrière. Quand dans notre vie, il n'y a pas de difficultés. Quand dans notre vie, les projets que l'on a à cœur se font et réussissent. C'est ce qu'on préfère. Il y a un passage dans la Bible qui nous montre qu'il nous faut savoir veiller à certains vents. Il y a un vent qu'on voit dans les Actes des Apôtres qui s'appelle Euraquilon. Et ce vent, c'était une tempête, un vent impétueux, la Bible nous dit, mais qui est venu au début comme d'une manière subtile, un léger vent. Voilà comment au début ce vent est venu, comme un léger vent. J'aimerais voir ce passage avec vous, c'est dans Actes 27. Chapitre 10, on voit ce passage qui nous parle encore par rapport à ce que je vous partage et qui nous montre vraiment la grâce de Dieu malgré les erreurs des hommes. Ce passage nous dit, acte 27, verset 10, « C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô hommes, Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire. Donc ils n'écoutèrent pas la parole de Paul à ce moment-là. C'est ce qui est dit d'ailleurs, verset 11. « Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon... Pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais, bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Orakilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Voilà les situations à ce moment-là de ces hommes qui n'ont pas su prêter attention à la parole d'un homme de Dieu, à la parole de Paul, à la parole de Dieu, que Dieu leur annonçait au travers de son serviteur. Et pourtant cette parole... avait été clair. Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Et il y a cette parole sur chacun de nous. Et Dieu nous prévient ce soir encore que si nous n'écoutons pas sa parole, il y a des conséquences. Et veillons vraiment à cette parole d'avertissement, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être très graves. La navigation de nos vies, si on n'écoute pas Dieu, si on ne reste pas attaché à sa parole et dans l'obéissance, cette navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. C'est ce que Dieu te dit ce soir. Ils se sont laissés piéger. Ils n'ont pas écouté la parole de Paul, ils n'ont pas écouté ce que Dieu voulait leur dire à cause de ce léger vent qui était là. Ce léger vent qui vint à souffler. Ils se sont cru maîtres de leur dessein. Et de la même manière ce soir, parce que peut-être tu te crois maître de ton destin, eh bien, veille à ne pas te laisser emporter de la même manière à la dérive, loin de Dieu, dans des tempêtes qui t'amèneraient à faire un naufrage, à vivre plusieurs souffrances, difficultés que tu pourrais éviter. Ne crois pas justement que tu es le maître de ton destin, mais réalise que finalement, tu ne maîtrises rien. Parce que qu'est-ce qu'on maîtrise véritablement? Est-ce qu'on maîtrise ce qu'il va se passer ce soir en rentrant chez nous? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer en rentrant sur la route? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'on maîtrise véritablement? Ce soir, ne tarde pas justement à répondre à l'appel de Dieu véritablement et à lui laisser les commandes de ton navire, de ta vie, à lui laisser le gouvernail pour conduire et diriger ta vie afin de faire ce qu'il te demande et de ne pas partir à la dérive. Malgré tout, dans ce passage, on voit la grâce de Dieu sur ces hommes, sur cette situation. Parce que ce passage se termine de cette manière. Après ce naufrage, il y a eu des conséquences. Le naufrage a eu lieu, selon ce que Paul avait annoncé. On voit cela au verset 43, même chapitre. À la fin du verset 43, il est dit, « Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. » Voilà la situation. C'est quand même triste, alors que Dieu leur avait parlé de se retrouver là, à la dérive, sur des planches, dans la difficulté. Et il est dit, à la fin du verset 44, « Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. » Ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. C'est vraiment la grâce de Dieu. À ce moment-là, Dieu... il les a secourus, il les a aidés. De la même manière, Dieu t'interpelle encore ce soir, afin que tu n'ailles pas plus loin, de ne pas partir, j'insiste, à la dérive, mais que tu puisses vraiment saisir sa grâce, son secours. De la même manière que les disciples se sont tournés vers lui, tu puisses aussi de la même manière te tourner vers Dieu, te tourner vers Jésus-Christ, dans la difficulté, dans la souffrance, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, Jésus a tout pouvoir. Dieu ne dort pas. C'est quand même interpellant, c'est particulier comment les disciples se sont tournés vers Jésus à ce moment-là. Ils lui ont presque fait un reproche. « Seigneur, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu ne dort pas. Si nous voyons à ce moment-là Jésus-Christ, oui, parce qu'il était sur terre et avec, comme je le dis, accepter les limites physiques humaines, dormir, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne dort pas. Et nous voyons ce psaume qui nous le dit dans le psaume 121, justement un homme qui lui aussi était dans des tempêtes, dans des difficultés, dans des épreuves. Et il image ces difficultés, ces épreuves, pas par une tempête comme sur la mer, ce que nous pouvons voir avec les disciples, mais par des montagnes. C'est une autre image, mais c'est la même chose. Et il dit, dans le psaume 121, il écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Il y avait ces montagnes, il y avait ces difficultés, ces problèmes. Et il pose cette question, d'où me viendra le secours? Et puis il a la réponse dans son cœur qui vient à ce moment-là, qu'il peut annoncer, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et il dit par la suite, une parole de Dieu, il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est ce que Dieu nous dit ce soir. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et après, au verset 7, ce psaume se termine de cette manière. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé par sa parole à prendre soin de nous, à veiller sur nous. Et quelles que soient les épreuves, les difficultés, les obstacles, Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui te garde. Et il est celui qui nous garde, même avant de le connaître. C'est vraiment merveilleux de réaliser ça quand par la suite on fait cette expérience de se tourner vers lui. Mais il est celui qui nous avertit, quand même. Parce que n'usons pas ce soir la patience de Dieu à notre égard. Nous puissions vraiment saisir sa grâce en répondant à son appel et en marchant dans ses voies. Parce que il est celui qui nous garde pleinement quand on marche dans l'obéissance. À ce verset, on peut vraiment le saisir, le serrer dans nos cœurs, l'expérimenter quand on marche dans l'obéissance, quand on répond à l'appel de Dieu. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est la parole de Dieu quand on lui a donné notre vie. Il nous assure que notre vie sera gardée, ici-bas sur cette terre, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant lui pour l'éternité. Et nous avons vu, c'est vrai, j'ai à cœur de le relire, ce verset dans Ésaïe 54, on l'a chanté. Verset 10 qui nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Et on peut même voir par la suite de ce passage, justement, les difficultés qu'il pouvait y avoir là, qui concernaient ces paroles, enfin, à qui Dieu parlait, « Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir, je ferai de tes créneaux de rubis tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. » On voit vraiment l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est des images que l'on ne saisit pas, mais cela nous parle vraiment cette protection, de comment le Seigneur veut agir pour enrichir nos vies et pour nous bénir, pour nous donner non pas de rester battus par les tempêtes qu'il peut y avoir ici-bas, de pouvoir vraiment, dans les tempêtes, les traverser par sa grâce, expérimenter sa grâce, sa toute-puissance. Alors de la même manière que, non pas de la même manière, mais j'allais dire enfin, de la même manière que les disciples, mais non, parce que finalement ils ne sont pas tournés de la même manière, ils ne sont pas tournés de la bonne manière vers Jésus-Christ, parce que on les voit faire presque ce reproche à Jésus, mais Jésus ne va pas les condamner, là non plus, Jésus ne va pas les reprocher de cette parole, il va leur donner simplement, il va les reprendre simplement en leur disant « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» C'est ça ce soir qu'il nous faut garder à cœur, en de placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur se soucie de chacun de nous. Ses disciples étaient dans cette pensée que le Maître ne s'inquiétait pas d'eux. Mais ce soir, réalise que Dieu se soucie de toi, s'inquiète de ta vie. Parce qu'il nous l'a prouvé en venant sur cette terre, en donnant sa vie pour chacun de nous, en payant le prix pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Dieu se soucie de chacun de nous, afin que nous ne périssions pas, nous ayons la vie éternelle. Alors ce soir, eh bien, ne te confie pas en toi, sur tes capacités, sur ta sagesse. Parce que vous avez vu dans ce passage, tant que les disciples essayaient par eux-mêmes, tant qu'ils essayaient de ramer par eux-mêmes, Jésus n'agissait pas. À partir du moment où ils se sont dit, où ils se sont tournés vers le Seigneur, mais c'est là où Jésus est intervenu. De la même manière ce soir, confie-toi à l'Éternel, vraiment, pleinement. J'aimerais terminer sur ce proverbe qui nous dit, c'est Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, c'est-à-dire respecte l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La bénédiction, la grâce de Dieu, elle est pour chacun de nous ce soir. Alors que nous puissions ne pas nous en priver ce soir, mais vraiment repartir de ce lieu en remettant toutes choses entre les mains de Dieu. Maintenant, en répondant à l'appel de Dieu, afin de saisir sa grâce, le pardon de nos péchés, et puis son secours, son aide, dans les difficultés, les épreuves que nous pouvons avoir. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton secours. Merci pour ton aide. Merci Seigneur, parce que plus que, Seigneur, d'être, aidé par toi, Seigneur, tu es celui qui nous a secourus en venant sur cette terre. Et tu es celui qui veut nous secourir, nous qui sommes là aujourd'hui. Tu es celui, Seigneur, qui délivre. Quand un malheur est crié à toi, tu le délivres de toutes ses frayeurs. Et Seigneur, encore aujourd'hui, c'est ce que tu veux faire dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce, pour ton appel. Je te prie, Seigneur, d'intervenir encore ce soir, afin que nous ne passions pas à côté, afin que nous puissions, Seigneur, vraiment saisir ce que tu mets là à notre disposition. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas, parce que tu veilles, parce que, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui agit encore aujourd'hui et qui a tout pouvoir pour ramener un grand calme là où il y a de grandes tempêtes. Seigneur, je te prie d'intervenir dans les cœurs encore ce soir, d'étendre ta main, de restaurer ce qui peut être en train de faire un naufrage dans leur vie, ce qui peut être en train de s'éloigner de toi, ce qui peut être en train de croire qu'ils sont maîtres de leur destin. Je te prie vraiment d'agir et de convaincre les cœurs ce soir, de révéler vraiment ton identité, qui tu es, ce que nous pouvons voir dans ce passage. Cette réalité que tu es ce Dieu fait homme venu vers nous pour nous sauver, nous racheter. Seigneur, je te prie vraiment d'intervenir afin que les cœurs, Seigneur, soient délivrés du péché et des souffrances, des conséquences de la désobéissance. Merci pour ce que tu fais encore ce soir au milieu de nous. Oui, parce que tu es celui qui nous aime, parce que tu es celui qui veut sauver, parce que tu es celui qui veut bénir. Amen.